On est véritablement dans un secteur qui cherche la profitabilité maximum. 25%, c'est de loin le secteur le plus profitable.
Depuis septembre, les députés européens demandent la transparence des contrats entre la Commission et les laboratoires pharmaceutiques et vous indiquez qu'il faut attendre la fin des négociations.
C'est beaucoup plus facile d'organiser une entreprise qu'une démocratie. Une démocratie, ça doit prendre des décisions qui ne sont pas rentables, qui sont compliquées.
Le cadre actuel de la démocratie doit évoluer. Il est normal que le pouvoir, quel qu'il soit, s'organise au même niveau que les échanges.
La première. Démocratie en question. Arnaud Reussen.
Mon vote ne sert plus à rien. De toute façon, ce sont les multinationales qui décident. Cette phrase, je l'ai entendue souvent et pas seulement chez ceux à qui on colle l'étiquette de complotiste. Et il faut bien dire que le pouvoir de certaines multinationales, leur ascendant sur les États, pose de vraies questions démocratiques. On s'était déjà demandé dans notre première saison si le capitalisme risquait d'avoir la peau des États. Cette fois, on a choisi de se pencher sur des entreprises dont on a énormément parlé durant toute la pandémie, les géants de l'industrie pharmaceutique.
Quatrième épisode. Big Pharma. Plus fort que les États?
Commençons par ce constat. En un an et demi de pandémie, les Big Pharma ont été des superstars.
Le groupe américain Pfizer annonce un vaccin efficace à plus de 90% contre le coronavirus.
Ce candidat vaccin est le fruit d'une collaboration entre l'américain Pfizer et l'allemand BioNTech.
Le vaccin de Moderna contre le Covid-19 montre une grande efficacité, un peu plus de 94% selon un communiqué de l'entreprise.
C'est une prouesse technologique et scientifique absolument extraordinaire. Faire ce vaccin en si peu de temps avec les résultats d'efficacité aussi extraordinaires, c'est comme ça qu'on va arriver à contenir cette épidémie.
Mais ces grandes entreprises pharmaceutiques ont aussi cristallisé toute la méfiance à l'égard des multinationales et de leur très grand pouvoir dans notre monde globalisé.
La vraie question qu'on devrait se poser, c'est comment se libérer aujourd'hui de la mainmise, de l'emprise des grandes multinationales pharmaceutiques sur notre vie, sur notre santé.
On est capable d'imposer à nos concitoyens une restriction inédite de nos libertés, mais on serait incapable de fixer les règles au Big Pharma?
Alors, les multinationales pharmaceutiques ont-elles effectivement un pouvoir démesuré sur nos États? Sur nos démocraties. Pour le savoir, première étape de notre enquête et rendez-vous chez l'un des hommes qui connaît sans doute le mieux le secteur des soins de santé en Belgique, Jean Hermès, qui a longtemps dirigé la Mutualité Chrétienne.
Bonjour, bonjour. Ça va et vous?
Il nous donne rendez-vous chez lui, à Wezembeek, et il a largement préparé notre interview.
Ça, on peut le faire dehors, s'il fait calme.
Oui, oui, oui.
Avec des dizaines et des dizaines de pages, de rapports imprimés, des enquêtes et des chiffres qui, à ses yeux, en disent beaucoup sur la force aujourd'hui de celles que l'on appelle les Big Pharma. Alors commençons justement par quelques ordres de grandeur qui situent le business model pharmaceutique au niveau mondial.
On sait aujourd'hui que Big Pharma, ça veut croître à 7 à 9% par an. Mettez ça en regard des croissances qu'on peut se permettre dans les systèmes de soins de santé qui sont largement en dessous. On voit une profitabilité de 25% par an et surtout des dépenses de marketing qui tournent autour de 27%, alors que la recherche n'est que pour 17%. Donc on est véritablement dans un secteur qui cherche la profitabilité maximum. 25%, c'est de loin le secteur le plus profitable. C'est même l'OMS qui le montre dans les chiffres. Et alors, avec des dépenses marketing qui se répercutent évidemment dans le prix des médicaments de 27% et qui donnent en fait à ce moment-là des moyens d'influence gigantesques. Pour rappel quand même, le marché pharmaceutique, ça représente 1000 milliards par an. 1000 milliards par an au niveau mondial. Et si on fait 25% de profitabilité là-dessus, ça vous donne 250 milliards de profits par an, ce qui est quand même énorme.
Ça fait beaucoup, en effet, Mais ce n'est pas ce chiffre-là, moi, qui retient le plus mon attention. Je suis frappé de constater qu'au niveau mondial, ces entreprises dépensent davantage en marketing qu'en recherche. Et pas qu'un peu. 27% de chiffre d'affaires pour le marketing contre 17% pour la recherche. Mais que reprend-on précisément dans ce poste marketing qui utilise donc plus d'un quart de chiffre d'affaires? Que font les multinationales de ces moyens colossaux?
On les utilise pour faire du lobby. On les utilise aussi pour influencer les médias, pour financer, promouvoir des académiques, des universités. Et puis on les utilise aussi pour plus vendre, c'est-à-dire influencer la pratique, influencer les prescriptions des médecins. Et donc, ces influences-là entraînent une augmentation du chiffre d'affaires qui va peut-être au-delà des besoins. On le voit chez nous de manière classique pour les antibiotiques. On l'a vu dernièrement pour les opioïdes aux États-Unis avec de nombreux morts. Donc, le marketing, c'est à la fois influencer la demande par le prescripteur, mais aussi par le consommateur. Il faut savoir qu'aux États-Unis, par exemple, le direct to consumer, comme on dit, c'est-à-dire pouvoir faire de la publicité à la télévision ou dans les médias pour les médicaments, est courant.
Aux États-Unis, la publicité pour les médicaments est en effet autorisée et elle est très présente dans tous les médias.
I got my life back now. Now I can enjoy every day that I live. I can really enjoy myself.
Since I've been on this new pain medication, I have not missed one day of work.
Chez nous, seuls les médicaments qui ne nécessitent pas une prescription médicale peuvent faire l'objet d'une publicité très encadrée auprès du public, mais ça en fait déjà pas mal. Voilà donc un premier élément qui donne beaucoup de pouvoir aux entreprises pharmaceutiques, un très gros budget qui sert à convaincre les patients, les prescripteurs et les responsables politiques. Mais il y a aussi une deuxième source de pouvoir très importante des Big Pharma, liée au fait que beaucoup d'États rêvent d'accueillir chez eux ces entreprises à la pointe de la technologie, tous prêts à se couper en quatre pour les attirer, et ça, les géants du pharma l'ont bien compris.
Les États sont divisés, la multinationale et le mondial. Elle a un objectif clair et les États, eux, ils ont bien sûr l'accès aux soins de santé, mais ils ont aussi l'emploi. Ils ont aussi le PIB. Et donc, tout le monde essaie d'attirer, que ce soit bien sûr dans le secteur pharma ou ailleurs, des implantations dans leur pays. Et comme chacun fait un peu, essaye d'être le plus attractif, le plus séduisant, chacun utilise une corde, une manière d'être attractif.
Prenons le cas de la Belgique. Notre petit pays est devenu au fil du temps l'un des leaders mondiaux de l'industrie pharmaceutique. Selon les statistiques nationales, pas loin de 30 000 personnes travaillent aujourd'hui directement en Belgique pour l'industrie pharma et la fédération pharma.be estime qu'en tout, c'est 130 000 emplois qui dépendent de près ou de loin de ce secteur. Notons aussi que les produits pharmaceutiques représentent près de 10% de nos exportations, un secteur souvent présenté donc comme dynamique et porteur pour l'économie.
Zoom ce matin sur le secteur de la chimie et du pharma qui engage.
2150 postes ont été ou seront ouverts cette année en Wallonie et à Bruxelles. C'est 700 de plus que l'an dernier.
Les biotechnologies et la pharmacie, elles ont le vent en poupe. Elles confirment une fois encore, pour autant que de besoin, que ce sont vraiment deux moteurs importants de notre croissance économique.
Ces chiffres démontrent notamment que l'industrie pharmaceutique est effectivement un des piliers clés de l'industrie belge et de l'économie belge.
Mais évidemment, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Et la Belgique a su parler à l'oreille des investisseurs du pharma. Réduction d'impôts, baisse de cotisations sociales et soutien massif à la recherche et au développement via des subsides directs et des aides fiscales. Si beaucoup d'entreprises pharmaceutiques sont venues s'installer chez nous, c'est parce que la Belgique offre mieux que d'autres en alimentant une course vers le bas dont on avait abondamment parlé dans notre saison 1 de Démocratie en question avec un spécialiste de la globalisation, le philosophe du droit, Benoît Friedman.
Ce qui caractérise la période actuelle dite de globalisation, c'est que le jeu se déroule au niveau global. Par exemple, la recherche d'un vaccin contre le Covid-19, c'est mondial. La finance, elle est mondiale. Mais les règles demeurent essentiellement locales. Donc, imaginez, vous voyez la carte du monde, la carte politique du monde. Eh bien, imaginez que vous jouez sur ce terrain-là, comme vous joueriez aux échecs, aux stratégos, aux risques, etc. Et qu'à chaque fois que vous changez de case, eh bien, vous êtes soumis à un autre régime de règles. Donc, il y a une situation qui tourne au grand avantage des sociétés multinationales par rapport aux États. Cet avantage est accentué par le fait que les États ont besoin de ressources fiscales, mais ils ont besoin d'activités économiques, ils ont besoin d'emplois, donc ils souhaitent absolument attirer les sociétés multinationales vers eux. Et donc, il n'y a pas seulement des différences de règles, il y a une véritable concurrence entre les États pour offrir des avantages à telle ou à l'ensemble des sociétés multinationales, comme en Europe, l'Irlande offre un taux d'imposition particulièrement attractif, afin que les sociétés multinationales qui veulent avoir accès au marché européen s'installent chez elles plutôt que dans un autre pays.
Mais ce qui est très particulier avec ce secteur pharmaceutique, c'est que l'État en est aussi le premier client, puisque toute une série de traitements sont remboursés par la Sécurité sociale. Et sur la négociation des prix des médicaments remboursés, on se trouve de nouveau face à une situation où les États se retrouvent mis en concurrence entre eux, face à des entreprises organisées, elles, à l'échelle de la planète. Surtout que les négociations se font dans le secret. Retour chez Jean Hermès, expert en soins de santé.
L'industrie a très clairement joué sur la confidentialité des contrats qui sont négociés avec chaque État pour que les firmes puissent à chaque fois négocier le prix le plus intéressant par rapport au pouvoir d'achat du pays. On peut évidemment pas avoir un même prix en Grèce qu'en Allemagne. Le pouvoir d'achat est différent. Donc forcément, on négocie des prix plus bas, mais on ne révèle pas quels sont le contenu de ces contrats. Et on n'autorise pas, ce qui à un moment donné a été le cas, parce qu'il y avait des importations parallèles. Sinon, on achèterait le médicament en Grèce à bas prix et on le ramènerait en Belgique avec une marge. Donc certains ont joué d'ailleurs là-dessus. Et puis, face à ce type de mouvement, importations parallèles sont autorisées. L'industrie a tout simplement dit, dorénavant, je ne vous livre que le nombre de doses nécessaires pour votre pays, pour éviter qu'il y ait encore une exportation par après vers d'autres pays à prix plus élevé. Mais donc, ceci fait que ces secrets permettent d'avoir en fait une différenciation des prix qui maximalise le profit.
C'est d'ailleurs assez ironique quand on y pense. Les multinationales exploitent les possibilités d'un marché ouvert à l'échelle globale qui leur permet de mettre les États en concurrence entre eux, mais s'arrange ensuite pour que les États ne puissent pas, eux, jouer à ce même jeu en allant racheter des médicaments dans les pays où ils sont vendus moins chers. En clair, les entreprises profitent au maximum des divisions entre les États et, ce faisant, elles ont même tendance à les entretenir.
Ça crée une non-solidarité entre les États. Puisque ça veut dire que moi, je négocie bien, mais ce prix négocié, je ne vais pas le révéler aux autres. Et donc, c'est cette division que j'expliquais au début. C'est que face à cette division, les multinationales sont fortes. S'il y avait une négociation, imaginons au niveau européen, une négociation commune autour d'un prix avec une exigence de transparence, la force du marché européen jouerait.
C'est d'ailleurs en partie ce qui s'est passé pour la première fois sur les vaccins contre le Covid. Là, il y a eu une vraie négociation commune pour l'ensemble de l'Union européenne avec les firmes pharmaceutiques, mais pas de transparence, ce qu'ont vivement dénoncé de nombreux députés européens.
Je suis très déçue, moi, sur la transparence. Moi, je voulais savoir combien on donnait à chaque labo. Le prix des vaccins, rien n'est dit.
La transparence est un préalable essentiel au contrôle de l'action publique et donc à l'instauration de confiance des citoyens.
La Commission nous dit que ce sont les laboratoires qui ont exigé l'opacité. Évidemment qu'ils l'ont fait. Comme toutes les multinationales, ils ont peur comme la peste d'une concurrence libre et non faussée.
Manque de transparence sur la négociation, manque de transparence aussi sur la formation des prix des médicaments. Car pour établir le prix d'un traitement, les entreprises ne se basent pas sur une addition des coûts de recherche et de production. Non, ce n'est pas comme cela que ça fonctionne.
Quand on décortique l'origine du prix, il n'y a aucun lien entre le prix de ce médicament et le coût de production ou le coût de la recherche. Le modèle qui est proposé aujourd'hui pour fixer le prix d'un médicament, ils appellent ça le « willingness to pay », c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est prêt à payer pour ce médicament. Et il y a des études de marché qui étudient le niveau auquel le public serait prêt à payer pour ce médicament. Et quand on atteint un montant qui n'a, comme je dis, aucun lien avec le coût de production, le coût de recherche, ben c'est ce montant-là qui va alors être négocié. Mais on n'a pas de vue sur comment ce prix est composé.
Sur ce plan-là, évidemment, le brevet joue un grand rôle. Puisqu'une fois qu'un traitement est breveté, l'entreprise a l'assurance pour 20 ans de ne pas se voir concurrencée par une autre firme sur la même molécule. Et si un État trouve que décidément un traitement est trop cher et ne peut être remboursé, il reste encore un moyen d'action pour l'industrie, prendre les médias et l'opinion publique à témoin et mettre ainsi la pression sur les décideurs politiques.
Il y a eu quelques cas célèbres en Belgique de parents d'enfants qui ont été approchés par une firme de relations publiques qui s'avérait in fine être elle-même financée par l'industrie pharma. Parce qu'il est évident que quand un enfant est touché par une maladie qui pourrait être soit arriver à un traitement, soit prolonger sa vie, ben, ça suscite un certain émoi. Et donc, ça met évidemment un ministre de la Santé en grosse difficulté. Et ça met la pression pour que ce médicament soit quand même accepté. Et donc, ça aussi, c'est pas à vous que je dois expliquer que le pouvoir des médias de nos jours est très important. Et donc, là-dedans aussi, les firmes savent aussi comment organiser la communication.
Vous vous souvenez peut-être de la petite Pia, cette enfant atteinte d'atrophie musculaire spinale et dont le sort avait fortement ému en Flandre. Ses parents n'avaient pas les moyens de payer son traitement médical et ils avaient fait un appel aux dons par SMS qui avait rencontré un gros succès. La firme Novartis qui produit ce traitement annonce aujourd'hui qu'elle va faire un geste pour les familles dans la même situation. Le traitement sera gratuit pour 100 bébés, des bébés tirés au sort.
Concrètement, 100 doses du médicament appelé Zolgensma seront distribuées courant 2020. Les médecins traitants devront soumettre un dossier et un patient sera tiré au sort toutes les deux semaines.
Nous trouvons ça complètement absurde. On est dans le cadre d'une maladie mortelle, la myotrophie spinale. 90% des enfants non traités meurent avant l'âge de 2 ans. Je ne voudrais vraiment pas être à la place des neuropédiatres qui vont devoir choisir les patients, annoncer en tout cas aux parents que leurs enfants ont droit ou non à cette loterie.
Si on regarde le top 10 des médicaments les plus chers qui ont été remboursés en Belgique l'année dernière, tous coûtaient plus de 100 000 euros par an. Le plus cher, pour une maladie heureusement rare, montait même à 754 000 euros sur base annuelle. Et le poste des dépenses en médicaments innovants dans le budget de la Sécurité sociale n'a fait qu'augmenter ces dernières années, entraînant des économies compensatoires dans d'autres secteurs. Bon, comme ça fait un moment qu'on parle de l'industrie pharmaceutique sans l'entendre et que nos interlocuteurs ne ménagent pas leurs critiques sur le pouvoir du secteur, je décide de prendre rendez-vous avec la patronne de l'EFPIA, la Fédération européenne du secteur pharmaceutique. Pas simple d'obtenir un rendez-vous. Il faudra quelques coups de fil et échanges de mails pour préciser la demande et annoncer à l'avance les thématiques précises qui seront abordées dans l'interview. Mais finalement, Nathalie Moll accepte de nous répondre via Skype.
Allô ?
Oui, allô, bonjour. Est-ce qu'on peut faire un petit test sur votre voix pour voir...
Oui, bien sûr.
Pouvez-vous vous présenter peut-être en quelques mots ?
Oui, je m'appelle Nathalie Moll et je suis le directeur général de FPIA.
Et elle nous précise d'abord le rôle de son organisation.
FPIA, c'est la Fédération européenne des associations et industries pharmaceutiques. Donc, nous représentons l'industrie biopharmaceutique qui opère en Europe. Notre mission est de créer un environnement collaboratif qui permet à nos membres, donc à nos firmes, d'innover, de découvrir, de développer, de proposer de nouvelles thérapies et vaccins pour les personnes à travers l'Europe. Ainsi, en même temps que de contribuer à l'économie européenne, bien sûr.
Donc ça, c'est la mission. Bon, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un lobby aussi, et peut-être surtout auprès des politiques européennes notamment ?
Nous représentons effectivement un secteur industriel, donc en se faisant une partie de la société, et nous sommes souvent menés à donner notre avis sur différentes initiatives gouvernementales au niveau européen. Effectivement, c'est le rôle que nous jouons, en plus notre rôle, bien sûr.
Je profite de la demi-heure d'entretien pour soumettre à Nathalie Moll certains des chiffres donnés par Jean Hermès, et notamment celui-ci émanant de l'OMS, et qui montre que, dans la structure des coûts des médicaments, on va trouver 27% de dépenses pour du marketing contre 17% pour de la recherche.
Alors, si ce sont des données de l'OMS, j'imagine que ce sont des données mondiales. Moi, je ne m'occupe que de l'Europe, où le marketing est très différent et très légiféré, bien sûr. Donc, je peux vous parler de la partie, disons, investissement R&D que j'ai mentionné tout à l'heure. Je peux vous dire aussi qu'on emploie 830 000 personnes dans la région européenne et qu'on contribue à 122 milliards d'euros à la balance commerciale de l'UE.
Mais donc, vous me dites qu'en Europe, on dépense plus en recherche qu'en marketing ?
Je n'ai pas les données, honnêtement, sur la recherche et le marketing en Europe. Donc, je ne saurais vous dire. Je peux bien sûr aller voir. Nous publions chaque année l'industrie pharmaceutique en chiffres pour l'Europe. Et je peux aller voir ou vous envoyer un lien. Mais sous la main, je n'ai pas ces informations. Désolée.
Document bien reçu entre-temps. Mais malheureusement, le poste des dépenses marketing n'y apparaît pas en tant que tel. Les dernières données officielles que j'ai trouvées sur le sujet pour l'Europe remontent à un rapport de la Commission établi en 2009. Il montre des dépenses marketing de 21% contre 18% pour la recherche. L'écart est donc moins grand qu'au niveau mondial. Il n'en reste pas moins que les sommes dépensées en marketing sont bel et bien plus élevées que les montants alloués à la recherche et au développement. Mais continuons avec une autre critique, formulée par Jean Hermès, sur les négociations de prix opaques avec les États, ce qui fait que l'on peut avoir un même traitement à des prix différents d'un pays à l'autre.
Donc en fait, le prix des médicaments en Europe reflète, comme partout, j'imagine, la valeur d'un médicament. Dans la détermination de la fourchette de prix, les entreprises de leur côté prennent en compte différents facteurs, l'impact du médicament sur les patients et leur maladie, la valeur ajoutée du médicament par rapport aux autres traitements disponibles, le potentiel du médicament réduire d'autres coûts de santé, ce qui est très important, les besoins sanitaires et économiques de chaque pays qui sont différents, et le prix des autres médicaments et traitements actuellement utilisés pour traiter cette maladie. Donc, une fois qu'on a établi une fourchette, le prix réel est ensuite, en Europe en particulier, soumis à un processus d'évaluation des technologies de la santé. C'est fait par le gouvernement. Et comme dans toutes les négociations, bien sûr, disons, les négociations de n'importe quel secteur se déroulent à huis clos pour protéger les informations sensibles. Mais je dois dire que si vous regardez la transparence, ce fameux mot qui revient très très souvent, je dirais qu'on est quand même des champions dans la transparence, par exemple dans la recherche et le développement. Vous avez vu dans les essais cliniques Covid-19, les protocoles, les résultats ont été publiés, même en cours de route.
Transparence à géométrie variable donc, avec beaucoup de données effectivement disponibles sur les essais cliniques des vaccins, mais le secret, par contre, sur les négociations de prix et sur la décomposition des coûts de développement des traitements. Et quand on demande si ce ne serait pas plus clair et plus avantageux pour les États d'avoir une grande négociation à l'échelle de l'Union européenne pour obtenir le même prix pour les 27, voici la réponse.
Je pense que si on avait une seule négociation, par exemple, comme vous le dites, nous n'arriverions pas à permettre aux pays qui ont un pouvoir d'achat plus bas que d'autres ou qui investissent moins dans la santé que d'autres, d'avoir les prix les plus bas.
J'ai quand même un doute sur l'argument. Il ne faut pas être grand clair pour se rendre compte que la force de négociation à 27 serait beaucoup plus importante. Le cas des vaccins Covid l'a montré, quitte pour les États à développer ensuite entre eux des mécanismes de solidarité. Mais forcément aujourd'hui, comme les prix sont secrets et que les États ne savent pas ce que payent les autres, difficile de se faire une idée précise sur le sujet.
La première. Démocratie en question. Arno Reussen.
Arrêtons-nous encore sur le fonctionnement du lobbying, en particulier au niveau européen. Au départ d'un enjeu qui s'est imposé en plein cœur de l'actualité ces derniers mois, la question d'une suspension des brevets sur les vaccins Covid pour pouvoir accélérer la vaccination du monde entier. Plusieurs pays se sont exprimés pour la levée de ces brevets, dont les États-Unis.
Il en avait fait une promesse de campagne. C'est désormais une parole de chef d'État. Joe Biden se déclare favorable à la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid.
L'Inde et l'Afrique du Sud avaient aussi demandé cette levée des brevets, mais du côté de l'Union européenne, la réponse, formulée ici par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, est beaucoup plus alambiquée.
L'UE est également prête à discuter de toute proposition qui réponde à la crise de manière efficace et pragmatique. C'est pourquoi nous sommes prêts à discuter de la manière dont la proposition américaine d'une levée des protections de la propriété intellectuelle pour les vaccins anti-Covid pourrait contribuer à réaliser cet objectif.
Alors, pourquoi cette grande prudence européenne vis-à-vis des acteurs du secteur pharmaceutique? Pour le savoir, j'ai pris rendez-vous au cœur de Bruxelles avec un certain Martin Pigeon.
Je suis ici. Ah ouais. Bonjour. Ça allait bien?
Ça va et vous?
Ben ça va.
Excusez-moi, j'avais des trucs à boucler, mais...
Ouais, pas de soucis.
Un tracker de lobby qui a passé les 13 dernières années à enquêter sur leur fonctionnement pour l'ONG Corporate Europe Observatory.
Il y a un petit peu d'ombre sur le banc, là. Ah bah oui, on va faire ça.
Il commence par nous expliquer une spécificité de la machine européenne sur les négociations pour les vaccins.
L'Union européenne a délégué l'exclusivité du pouvoir de négociation des aspects commerciaux, y compris sur la propriété intellectuelle, à la Commission, et particulièrement à la DG Commerce internationale de la Commission. Et alors le problème, c'est que mes collègues là, de CEO viennent de publier un petit rapport qui montre qui la Commission européenne a-t-elle rencontré sur cette question-là depuis le début de la pandémie. Eh ben c'est fou. Sur 140 réunions, vous en avez 139 avec les labos et une avec une ONG de défense de la santé publique. À l'heure où je vous parle, je crois que la Commission européenne refuse toujours de rencontrer Médecins sans frontières sur cette question. Alors que Médecins sans frontières, ça fait 30 ans qu'ils sont sur cette campagne-là. Ils se sont battus pour libérer les droits de propriété intellectuelle sur les trithérapies sur le sida. Ils se sont battus pour libérer les droits de propriété intellectuelle sur les médicaments, sur la tuberculose. C'est un problème qui est toujours en cours, d'ailleurs. Donc, s'il y a une organisation avec qui vous devez parler, qui a une expérience à la fois juridique, pratique, logistique, médicale sur cette question-là, c'est Médecins sans frontières. Pourquoi la Commission européenne refuse-t-elle de le faire? C'est incompréhensible. Mon opinion personnelle, c'est qu'ils le font parce que c'est leur habitude, parce que leurs interlocuteurs au quotidien depuis 25-30 ans sur ces questions-là, c'est l'industrie pharmaceutique, ce sont les industriels plus généralement, ce ne sont pas les ONG.
Renseignements pris auprès de l'ONG, ce qu'MSF réclame, c'est d'être reçu par les commissaires à la santé et à l'économie. Mais à l'heure de boucler cet épisode, aucune suite n'avait été donnée à cette demande. Alors qu'en tout, ces mêmes commissaires ont eu 161 rencontres avec le secteur, associations professionnelles ou sociétés elles-mêmes, selon les données de Corporate Europe Observatory. Mais pourquoi une telle place laissée à l'industrie dans les rencontres? Pour Martin Pigeon, la raison serait culturelle, conditionnée par la façon dont l'Europe s'est construite.
Alors je pense que c'est un héritage historique qui est lié effectivement à la façon dont l'Union européenne s'est construite. Ce pouvoir de négociation des accords commerciaux, ça a été un des premiers pouvoirs de la Commission dès les années 60. Et pour négocier un accord commercial, vous avez besoin d'avoir accès à des informations précises sur les parts de marché, sur la façon dont les marchés évoluent, etc. Et il y a deux types d'acteurs qui ont ce type d'informations. Vous avez les administrations nationales compétentes et vous avez les acteurs de marché eux-mêmes. Et il se trouve que, pour des raisons compréhensibles mais dommageables, les administrations nationales ont fait de la rétention d'informations parce qu'elles ne voulaient, ça leur plaisait pas plus que ça d'avoir cette administration qui se créait au-dessus d'elles avec la vocation de les diriger, de les harmoniser. Donc voilà, ils n'ont pas particulièrement partagé. Et donc du coup, la Commission européenne a été voir les autres, à savoir les groupes patronaux principalement, les associations professionnelles, etc. Et donc ça a créé le début. Et comme évidemment l'Union européenne est avant tout historiquement et encore aujourd'hui une institution de régulation de marché, ses interlocuteurs naturels sont les acteurs de marché, sont les entreprises, les associations professionnelles, les négociants, etc. Donc oui, il y a un problème culturel.
Et pour notre chasseur de lobby, le problème serait même plus profond que cela et lié sociologiquement au fonctionnement un peu en vase clos du quartier Schuman à Bruxelles.
Sociologiquement, c'est très clair. Quand vous regardez le quartier européen, les gens qui sont les vrais permanents du quartier européen, donc de l'eurocratie, c'est un même groupe social, très largement, qui sont donc les fonctionnaires des institutions et les gens qui travaillent pour les institutions, parce qu'il n'y a que la moitié de fonctionnaires, le reste, ce sont des contrats temporaire, renouvelable qu'une seule fois. Donc c'est 10 ans maximum. Et donc quand vous avez bossé 10 ans pour l'Union européenne et que l'Union européenne n'a plus le droit de vous employer, devinez qui va vous embaucher. Les lobbies, évidemment, parce qu'ils ont besoin exactement des compétences que vous avez. Ils ont besoin de votre carnet d'adresse, ils ont besoin de votre maîtrise technique des dossiers. Et en plus, ils payent très bien. Donc, en tout cas, ils sont capables de payer les salaires que vous payez la commission avant. Ce qui n'est pas tellement le cas. Il y a peut-être une ONG ou deux qui est capable de faire ça, mais j'en connais pas beaucoup. Donc essentiellement, ce sont des lobbies industriels. Et donc effectivement, quand vous regardez sociologiquement, vous rendez compte que ce sont ces deux groupes-là qui vivent à Bruxelles à l'année, sur même une vie, sur même plusieurs générations maintenant, parce que ça fait un petit moment que ça dure. Et tout ça est le même milieu social. Enfin, ils mettent leurs enfants dans les mêmes écoles, ils ont le même type de revenus, ils vivent dans la même ville, c'est la même communauté expatriée. Et effectivement, les allers-retours sont très très nombreux. Et en fait, ça vous donne une situation assez étrange où en fait, les frontières entre les institutions et la vie intime, que ce soit les familles, les amis, etc., devient très poreuse en fait. Et tout le monde se connaît, et du coup, personne n'insulte l'avenir, on reste poli. Voilà, ça donne une espèce de culture comme ça qui est. Où on joue à se faire la guerre, mais en vrai, on va quand même boire des coups après, quoi.
Pour toutes ces raisons, Martin Pigeon n'hésite pas à dire, lui, que les lobbies sont devenus, en quelque sorte, des co-législateurs au niveau européen. Co-législateur, carrément. Est-ce qu'on se voit comme ça du côté de l'EFPIA ? Retrouvons Nathalie Moll, patronne du lobby européen de l'industrie pharma.
Je pense que les législateurs doivent développer, si je ne me trompe pas, des règlements qui concernent l'industrie, donc qui doivent cadrer la manière dont les industries produisent et mettent leurs produits sur le marché, que ce soit l'industrie pharmaceutique ou autre. Et dans ce cadre-là, nous sommes menés à donner nos avis sur différents projets de loi et sur différents. Mais cela est assez normal pour n'importe quel secteur, je pense et je sais, parce que ça fait plus de 25 ans que je travaille dans ce secteur, au niveau national ainsi qu'au niveau européen, que les autres acteurs sont aussi menés à donner leur avis aux institutions.
Oui, mais beaucoup moins, visiblement. Les ONG peinent à se faire entendre là où le secteur a été reçu 161 fois par les commissaires. Comment expliquer ça ?
Mais vous pouvez imaginer pourquoi. C'était dans le cadre du développement des vaccins, des négociations sur les contrats pour les vaccins, j'imagine aussi. Cette année a été une année extraordinaire en termes de nécessité de communiquer de manière transparente les avancements au niveau de l'industrie. Et il y a eu plusieurs cadres dans lesquels j'imagine que ces réunions ont eu lieu. Excusez-moi, je suis déjà 5 minutes en retard pour ma prochaine réunion. Je m'excuse de vous avoir fait attendre de mon côté aussi.
Zut, on aurait aimé poursuivre la discussion, même si ce n'est pas vraiment à l'industrie de se justifier sur ce point, mais plutôt à la Commission et à ceux qui lui ont délégué ce pouvoir de négociation. Ce qui nous renvoie finalement à l'enjeu de la démocratie européenne. N'est-ce pas ça le problème, celui d'une technocratie, d'une eurocratie sur laquelle les citoyens et leurs représentants manquent de prise ? Retournons chez notre philosophe du droit et spécialiste de la globalisation, Benoît Friedman. Pour lui, si le citoyen et les politiques veulent retrouver prise sur ces enjeux, il faut repenser la démocratie européenne.
Le cadre actuel de la démocratie doit évoluer. C'est-à-dire que si vous avez une société qui est organisée à l'échelle mondiale, ce n'est pas le cas, ou à l'échelle de l'Union européenne, c'est bien davantage déjà le cas, il est normal que le pouvoir, quel qu'il soit, s'organise au même niveau que les échanges. Et donc, on doit passer à ce qui a déjà été expliqué par Habermas et d'autres depuis les années 1990, à savoir à la démocratie post-nationale. En clair, à la démocratie au niveau de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce qu'une démocratie n'est légitime et viable que si elle est efficace, et ça ne sert à rien de s'arc-bouter sur des institutions démocratiques impuissantes. Cela entraîne le fait que vous avez une désaffiliation massive des gens qui ne croient plus dans leurs institutions et dans les gouvernants dès lors que ceux-ci, ils voient bien que ceux-ci ne font que assister de manière impuissante à des événements qui les dominent. Donc, ça peut être difficile à croire, mais il faut non pas faire son deuil de nos institutions. Mais nos institutions vont devenir, nous connaissons bien la régionalisation et l'éparpillement incroyable des structures de pouvoir dans notre pays tout petit, eh bien, nos régions vont être des régions dans une entité démocratique en construction qu'est l'Union européenne.
Ce qui ne veut pas dire, donc, la fin de nos États, même si Benoît Friedman fait quand même cette remarque.
L'État n'a pas toujours existé. L'État tel que nous le connaissons a été inventé par la modernité autour du XVIIe siècle et ne s'est véritablement imposé qu'au XIXe siècle, dans la plupart des entités, comme la Belgique par exemple. Et donc, l'État en tant que forme est mortel. Et si le monde est complètement modifié, il n'y a pas de raison que les institutions ne soient pas complètement modifiées. C'est même la loi, au sens scientifique, de l'évolution humaine. Toute l'histoire montre cela. Mais l'histoire montre aussi que les structures en place résistent par rapport à ce type de changement. D'une certaine manière, on veut d'une structure qu'elle soit solide. Et effectivement, les États, y compris démocratiques, sont aujourd'hui parmi les principaux adversaires d'une démocratie à une échelle plus large, pour nous, européenne, qui effectivement signerait davantage encore leur abaissement et à terme leur effacement. Ce à quoi nous sommes attachés, c'est la démocratie. C'est les droits et les libertés, c'est pas l'État. La preuve, c'est qu'il y a tout un tas d'États qui ne sont pas démocratiques et qui nous inspirent beaucoup d'hostilité. Et aussi qu'il y a eu des démocraties avant qu'il y ait des États. On avait des cités-États et on a chez nous la démocratie locale. Donc, dans notre tête, il y a quelque chose de très simple à faire. Il faut dissocier la forme démocratie de la forme État. Ce n'est pas vrai que leurs sorts sont nécessairement liés. En tous les cas, théoriquement. Maintenant, en pratique, le risque est qu'en affaiblissant l'État, on ne crée pas la démocratie européenne et qu'on favorise le courant en cours vers des modes de régime de gouvernance très technologique et très autoritaire et très injuste. Tout ça va bien ensemble. Et donc, quelque chose qui est bien compréhensible de la part des défenseurs de la démocratie. C'est un choix stratégique. On est tous pour la démocratie, mais certains vont dire « ne lâchons pas la proie pour l'ombre ».
Ça vaudrait presque un épisode en soi. Parce que pour avoir croisé beaucoup de citoyens au fil de la réalisation de cette série, on entend chez beaucoup le besoin justement de retrouver un État qui a de vrais leviers d'action. Avec l'impression fondée que jusqu'ici, le pouvoir qui s'est évaporé des États a plutôt filé vers des structures non démocratiques ou peu démocratiques. Et on voit aujourd'hui que les partis qui ont le vent en poupe un peu partout en Europe sont bien plus des partis nationalistes que les partis fédéralistes européens. Terme qui a d'ailleurs pratiquement disparu du lexique politique ces dernières années. Pas sûr que la conférence citoyenne sur l'avenir de l'Europe, que vient de lancer la Commission, suffise à dépasser ces peurs-là. C'était Démocratie en question, une série de La Première avec le soutien du Fonds pour le journalisme. À la réalisation sonore, Jonathan Remy. Cet épisode consacré au Big Pharma, vous pouvez le retrouver évidemment sur Ovio ainsi que sur toutes les plateformes de téléchargement. Prochain épisode de cette série, l'enjeu de nos données personnelles et la façon dont elles sont gérées par l'État. Y a-t-il des garanties suffisantes pour notre vie privée ? Risque-t-on une forme de contrôle en mode Big Brother ? C'est ce qu'on examinera dans la suite de cette série. Et si vous souhaitez réagir, commenter, faire des suggestions aussi pour réveiller, revitaliser nos démocraties, n'hésitez pas à le faire à l'adresse suivante, démocratie@rtbf.be, démocratie, en un mot, au singulier sans accent, @rtbf.be.